polaire vieux, chose non vue. L'autre jour, en prenant le thé de 5 heures chez Madame de Justaucorps, on se mit à parler du plus récent tueur de filles. Et les jeunes mondaines, jolies et pimpantes, qui se trouvaient là, ne furent point ces mines dégoûtées ou indifférentes par lesquelles toute allusion à des aventures de ce genre est ordinairement accueillie dans un salon. Il semblait que la cause fût plus caractérisée ici par le milieu de basse prostitution où elle était née. Il y avait plus tôt chez les interlocutrices parisiennes une sorte de sentiment grave, anxieux et résigné. Sans doute, chacune pouvait en avoir ses raisons particulières, mais toutes, peut-être, écoutaient simplement en elles la solidarité du sexe faible, qui toujours se sent fait pour ne s'ouvrir à l'amour que par la cruauté sous la blessure du sexe fort. Et ce fut la maîtresse de maison qui formula cette banalité en manière de conclusion. Oh bon, il faut un grand courage à ces créatures pour introduire aussi chez elles un individu qu'elles n'ont pas encore jamais vu. Mais, répliqua Madame Morsange, lorsque vous montez seule dans un compartiment de chemin de fer, pour peu qu'un monsieur y monte à son tour et que le train parte là-dessus, voici donc à la merci du premier bandit ou du premier polisson venu. Comment ? Vous ne trouvez pas le comble de l'audace qu'une femme honnête consente à être enfermée pendant un temps plus ou moins long, mais toujours trop long, pour que la sécurité y soit possible, avec un inconnu dans ces espèces de petites chambres à coucher que sont les wagons, et cela souvent le soir, la nuit, à l'heure où même chez soi, si gardée, si bien close que l'on se sent y être, il semble qu'un peu de Georges flotte dans les coins noirs. Et roulé de la source, à travers l'obscurité, dans le désert, au milieu d'un grondement infernal, avec un homme qui vous regarde fixement si vous êtes appétissante, qui veut bientôt faire connaissance s'il est mal élevé. Bon ! Mais il y a le compartiment de dame seule, objecta quelqu'un. Ah, ah oui, parlez-moi. Belle garantie. J'en ai un bon souvenir. Et le ton de Madame Mortange avait éveillé les curiosités. On la pressa de questions, d'autant plus qu'un petit air de gêne vint alors augmenter son visage et l'agrémenter rose de blonde potelée. « Eh bien, voici, dit-elle. Il y a 3 ans, j'allais rejoindre mon mari, qui m'avait devancé de quelques semaines dans sa nouvelle garnison. Ma mère m'avait bien tendrement installé dans ce précieux compartiment de dame seule, qui est toujours vide, ainsi qu'on sait. Je m'étais décidé, au train du soir, comme étant le plus rapide et au bout de quelque temps, le sommeil s'empara de moi, de telle sorte que je ne m'éveillais plus aux stations, d'ailleurs rares, qui se faisaient. À l'une d'elles, pourtant, ma torpeur fut oubliée et troublée par un souffle d'air froid, un claquement de porte. Et déjà le train repartait et un homme avait pénétré dans le compartiment. Instantanément, je fus tout dégourdi par la surprise. La frayeur ne devait me venir et grandir que progressivement. D'ailleurs, que faire ? Nous marchions déjà à grande allure. C'est à l'individu lui-même que j'aurais pu seulement me plaindre de son intrusion illicite dans un pareil wagon. Je me gardais bien de l'apostropher. Ma montre marquait minuit. Ce renseignement me permit de retrouver sur l'indicateur quelle était la gare que je venais de quitter. Mais je fus fort ému de constater que j'avais désormais une grande heure tout entière à passer sans nouvel arrêt. Alors je cherchai les yeux à la poignée du signal d'alarme. Elle était bien à sa place, presque au milieu du plafond, un peu plus près de moi que de l'autre voyageur. Je vis que le regard de celui-ci avait un « vu mon regard ». À son tour, il porta son attention là-haut, il cligna des paupières, et brusquement, il ferma le rideau sur le globe de la veilleuse. À ce moment, mon cœur battit si fort que je crus défaillir. Mais l'individu n'avança pas vers moi. Sa forme, que pour l'instant je discernais mal, se recula. Il alla s'étendre sur la banquette qui faisait suite à celle que j'occupais. Ah, j'eus alors quelques minutes pour reprendre respiration. Mais j'en profitais pour m'apercevoir que l'incident, à la réflexion, devenait encore plus inquiétant. Le voyageur n'avait aucun bagage avec lui. Il était tout de noir habillé, mais gris de poussière. Une espèce de plume de coq était passée dans le ruban de son chapeau de feutre qui couvrait une tête maigre, grise de cheveux, grise de peau, ayant des favoris plats et l'expression faciale d'un notaire de province, dont la barbe n'avait point été faite depuis plusieurs jours. Et au bout d'un certain temps, durant lequel je n'avais cessé d'entendre mon compagnon de route remuer et se retourner sur place en soufflant, je compris qu'il en avait contre le rayon de lumière venant du compartiment voisin par le petit carreau intermédiaire. En effet, il se releva bientôt et, sans doute dans un mouvement rageur, il alla plaquer son visage sur la vitre, tout éclairé en triangle, qui était diagonalement opposé à la position où j'étais. Mon attention fut alors irrésistiblement concentrée sur la figure qui était ainsi devenue le seul point lumineux pour moi. Et je ne tardais pas à y voir s'y dessiner des choses aussi nettes et aussi multiples que dans une projection de lanterne magique. À cet endroit de son récit, Madame Mursange parut un peu embarrassée pour le continuer. Et elle s'interrompit avec un air de décence et une moue de confusion. Mais les dames réclamèrent à grands cris la suite. « Certes, reprit la jeune femme, je ne pouvais me méprendre sur la nature des faits que semblait découvrir l'indiscret spectateur. Ses yeux, les ailes de son nez et sa mâchoire prirent une expression dont je n'avais pas encore eu la moindre idée, mais dont je devinais pourtant tout de suite le sens, tant elle ne ressemblait en rien dans sa particularité violente à aucune de celles que je connaissais pour les divers genres d'émotions naturelles, convenables ou plus directes. Non, je n'aurais jamais cru qu'un simple visage d'homme, que rien de visible qu'un visage, détaché du corps comme celui d'un décapité, pût devenir un tel tableau d'infamie et contenir autant d'offenses à la pudeur, autant d'outrages en sa rencontre avec un regard de femme. Oh, je me sentais bouleversé, les joues brûlantes d'une honte rouge. Je voulais détourner ma tête, fermer mes yeux. Impossible. J'étais retenu par un détestable attrait que je ne vous avouerai pas. Croyez-moi bien. S'il n'avait pas été surtout fait de terreur, mais qu'allait-il devenir de pire que trouvèrent toute prévision première quand se retournerait vers moi cette face humaine qu'un hasard venait de transformer en masque illuminé de satyre et quand ses narines frémissantes revendiraient à flairer ma présence dans l'ombre. Et tout à coup, la physionomie que scrutait mon angoisse se figea avec une fixité d'effarement, si effarante que j'en cessais soudain aussi de penser à moi pour ne plus penser qu'à ce qu'il pouvait au-delà s'accomplir d'inconnu dans l'inconnu. Puis les traits de l'individu s'agitèrent effroyablement et des exclamations terrifiées lui échappaient. « Oh ! Oh ! » faisait-il en claquant des dents. « Mais quoi ? » m'écriai-je malgré moi. « Qu'y a-t-il ? » « Si c'est un crime, passez votre poing par la vitre, criez !»« Oh ! Oh ! Oh ! » répondait-il seulement. Et toujours « Oh ! Oh ! » Oh, d'une voix qui hurlait à la mort. N'y pensant plus, je lui dis que j'allais tirer la sonnette d'alarme. Il se borna à proférer encore ses rauques gémissements. Et je fis comme j'avais dit. Presque aussitôt, le train se ralentit. J'ouvris les rideaux de l'éclairage et cela permit sans doute d'apercevoir du compartiment voisin que l'on y était surveillé d'une autre. En tout cas, mon compagnon quitta lestement son observatoire. Un élan me porta à le remplacer, m'y jeta, pour ainsi dire, mais juste à un moment où je ne fis que de voir que l'on voulait vivement la lumière à côté, qu'on la voilait. Le train stoppa, un employé survint. Voyez là, lui indiquai-je de la portière où j'étais penché. L'agent se rendit au compartiment désigné, et l'instant après, il en revenait, disant que je lui avais fait réveiller un monsieur et deux dames qui dormaient tranquillement. Je me retournai vers mon compagnon, qui avait l'air fort agacé, pour en appeler à son témoignage, tandis que l'agent de la compagnie faisait sèchement l'observation comme quoi c'était dans notre compartiment que l'appel d'alarme avait été déclenché. « Qu'est-ce qui a appelé ? » demanda-t-il. Ma foi, je n'hésitais pas. Plutôt que de m'engager dans les détails compliqués, scabreux et inutiles, je répondis « C'est monsieur. » En somme, je n'avais jeté que le bras, et c'était celui-ci qui avait été la tête, l'horrible tête. Dame, il protesta, et dénia énergiquement. L'agent nous réclama nos billets pour s'assurer ainsi de nos personnes à la sortie. Je lui remis le mien. L'autre voyageur n'en avait pas. Dès lors, sa cause était plus défendable. On le fit descendre, on l'emmena où il fallait, et j'achevais mon parcours, délivré, mais tout affolé, blotti, sans plus oser en bouger, dans le coin où je venais de tant vivre, pour moi et pour je ne sais qui, d'autre encore, à travers quelque autre. « Mais quoi, dites-moi, madame Beausange, n'avez-vous donc pas plus d'éclaircissement à nous donner ?»« Eh non, en somme. Mon mari, qui était en tenue d'officier quand je le retrouvais à la gare d'arrivée, n'eut pas de peine à mesurer et me tirer d'affaire sans plus d'enquête. Oh, j'ai entendu émettre la supposition que cet être avec qui j'avais voyagé était un fou évadé. Et cela parut d'autant plus vraisemblable qu'il avait une maison de santé assez proche de la station où l'individu était monté. Alors, fit Madame de Justaucorps, comme avec la nuance insaisissable d'un regret, d'ailleurs inadmissible, toutes les sensations que vous avez vues se refléter sur ce baroque personnage, il aurait donc forgé les sujets dans sa cervelle. Mais cependant, opina la petite mademoiselle chasseuse, il y a le coup de la lumière que l'on a caché secrètement au moment où le train s'est mêlé de s'arrêter, une minute avant que vos voisins ne fussent soi-disant troublés dans leur repos apparemment si paisible. Oh, moi, les avez-vous aperçus à un instant quelconque, ces personnes de notre compartiment? Oui, lors de leur descente, l'homme était un grand gaillard d'une cinquantaine d'années, peut-être avec une grosse barbe jaune, touffu, et de tout petits yeux, sans sourcils. Il est enveloppé d'un long cache-poussière qui lui complétait une apparence d'anglais. Il portait d'une main sa valise et de l'autre le sac des deux femmes. Et il marchait très droit, très lourd, les yeux fixés devant lui. Ses compagnes, fortement encapuchonnées, étaient revêtues aussi de cache-poussière. Elles le suivaient, sans lui adresser la parole ni changer un mot entre elles. Leur tournure était jeune, leur figure m'ont paru agréable, un peu boursouflée, comme quand on a bien dormi ou mal dormi. Mais enfin, de quoi tous les trois avaient-ils l'air? Mon Dieu, l'air de rien! Mon Dieu, l'air de rien! L'air de tout le monde! L'air de gens que l'on ne sait pas accuser d'avoir fait telle ou telle chose, et auxquels, par conséquent, on ne saurait trouver bien une tête à cela!